de la voix du feu. Comment est née la voix du feu? Eh bien, ce livre, curieusement, a été écrit en deux parties. La première, Plein feu sur Agni Yoga, était là aussi le résultat de mon contact avec l'Agni Yoga, de mon contact intérieur par la méditation, avec l'ashram du maître Moria, et vraiment en vérité, le contact avec l'ashram du maître Moria, c'est quelque chose qui est bien au-delà de toute fantasmagorie, je peux le dire. Et ceux qui lisent les livres de l'Agni Yoga, tels qu'ils ont été donnés par Elena Rurick, inspirés par le maître Moria, savent bien que l'Agni Yoga, ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas du vagabondage astral. En astral, bien sûr, nous pouvons trouver beaucoup de belles formes qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des représentations formelles, un reflet, quelquefois beau, bien sûr, un reflet des réalités qui sont dans l'ashram des maîtres, mais il ne faut jamais confondre. Parce que les maîtres eux-mêmes jamais, jamais, jamais ne fonctionnent en astral. Il faut que les étudiants qui veulent vraiment grandir et devenir des disciples des maîtres de la sagesse et non pas de quelques fumistes gourous, sachent bien qu'on ne rencontre pas le maître en astral, ce n'est pas vrai. Les maîtres ont autre chose que d'aller vagabonder en astral, donner de l'encens et des compliments à des aspirants qui sont en quête de sollicitude du maître. Non, ce n'est pas ça, travailler avec les maîtres de la sagesse. Travailler avec les maîtres de la sagesse, cela implique un petit peu quand même un certain dépouillement de soi, un total dépouillement, un véritable dépouillement, un non-intérêt vraiment de sa petite personne, aucune vanité en vérité. Travailler avec les maîtres de la sagesse, cela implique de devenir quelqu'un d'extrêmement solide, courageux et fort, qui puisse enfin un jour prendre place sur la scène mondiale pour y travailler, pour transformer le monde. Et je dirais en vérité que dans le monde, dans les mondes spirituels, des spiritualistes d'aujourd'hui, dans les grands mouvements, quels qu'ils soient, il y en a bien peu qui sont vraiment des disciples, des maîtres. Nous avons beaucoup d'aspirants, mais c'est une étape, c'est normal, c'est bien. Nous n'avons pas besoin de trop nous, disons, polariser là-dessus. C'est une étape normale. Dans le monde des mystiques, il y a une grande majorité d'aspirants, bien sûr. Il faut commencer par le commencement. Des aspirants qui cherchent d'abord à s'équilibrer eux-mêmes. Ce qui est extrêmement difficile parce que les mystiques ont de grands problèmes. Et on n'a qu'à lire la psychologie ésotérique d'Alice Bailey pour comprendre les problèmes des mystiques. Mais tant qu'on est en état de problème, et tant qu'on est perdu dans les fantasmagories astrales, tant qu'on a une espèce de dévotion personnelle au maître, en espérant que le maître va nous regarder et nous choisir pour faire un travail particulier dans le monde, que nous allons être élus quelque peu, tout cela c'est faux, et tant qu'on en est là, on est dans les problèmes des mystiques. Alors lisons le maître tibétain, lisons la psychologie ésotérique, et nous comprendrons ce qu'il faut faire pour guérir de tous ces problèmes-là, et pour enfin peut-être un jour commencer à prendre une position de force, une vraie position de disciple, tout simplement. Une vraie position de serviteur du monde, tout simplement, dans l'équilibre, la force, la sagesse et l'efficacité. Et je peux dire que, en vérité, dans le monde des hommes aujourd'hui, il y a beaucoup de disciples qui n'ont aucune prétention spirituelle, mais qui pourtant sont des authentiques disciples des maîtres, parce qu'ils engendrent dans le monde les transformations que le monde a besoin. Ce sont ceux-là les disciples, ce sont ceux-là les serviteurs du monde, et non pas de vagues mystiques remplies de prétentions et de vanité. Donc, si nous voulons être des disciples, nous avons vraiment à faire un grand travail sur nous-mêmes d'abord. Et à vraiment être consacré au bien commun avant d'être consacré à sa petite gloire personnelle. Et donc, quand je lisais et méditais les livres de l'Agni Yoga, tels qu'ils ont été donnés par Elena Rurick, qui a été elle, oui, en effet, la transmettrice de l'Agni Yoga, comme Alice Bailey a été la transmettrice de l'enseignement du tibétain. Et ces deux êtres-là comme certains autres en début du siècle ont été les transmetteurs des maîtres de la sagesse pour initier déjà un nouveau cycle de travail. Et ils n'ont pas besoin, ces maîtres-là, maintenant, de nouveaux transmetteurs pour initier quelque chose de nouveau. Non, tant que ce qui a été donné en début du siècle n'a pas été appris, mis en œuvre, intégré par les disciples actuels. Non. Et ce que nous faisons, nous, actuellement, ceux qui ont compris que ces enseignements-là sont à la base de l'évolution de la conscience humaine, ce que nous faisons simplement, nous témoignons de la réalité et de la pratique de ces enseignements. Mais nous n'apportons pas quelque chose de nouveau et nous ne prétendons pas apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau viendra avec le nouveau cycle de la hiérarchie, avec le nouveau message de la hiérarchie à partir des années 2025 au moins. Donc, même les plus brillants aujourd'hui, il y en a quelques-uns. Je dis quelques-uns et je ne dis pas une multitude. Il y en a quelques-uns des disciples qui sont brillants et qui transmettent déjà des réalités de l'ashram. Mais en réalité, ils témoignent également, mais avec beaucoup de brillance et de qualité, parce que sans doute ils sont très évolués, ils témoignent eux aussi de la réalité de ces enseignements-là. Ils n'apportent pas actuellement quelque chose de nouveau, ça il faut bien le savoir. La hiérarchie n'apporte pas tous les ans un enseignement nouveau, ce n'est pas vrai. Donc, les prétentions d'apporter quelque chose de nouveau actuellement, elles sont fausses. C'est simplement de la vanité. Il faut le dire aussi. Et quand j'ai donc écrit plein feu sur l'Agni Yoga, c'était encore pour témoigner de la richesse de l'enseignement de l'Agni Yoga et pour démontrer aussi que l'enseignement de l'Agni Yoga issu du maître Moria était en complémentarité ou en exaltation, ils s'exaltaient l'un l'autre avec l'enseignement du maître tibétain, et que l'Agni Yoga, en fait, il englobe ces deux enseignements. Le maître tibétain parle de l'Agni Yoga à sa façon, et le maître Moria en parle à sa façon. Et c'est une synthèse, justement, c'est pourquoi l'Agni Yoga est un yoga de synthèse. C'est la synthèse de ces deux enseignements dans la conscience, par la méditation et le vécu. N'oublions jamais le vécu, bien entendu, sinon ce n'est pas du yoga. Le yoga englobe toute la vie et toute la conscience de l'être. Cela ne peut pas être autrement, sinon ce n'est pas du yoga. C'est de la fantasmagorie, c'est de la gymnastique, c'est tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas du yoga. Le yoga, c'est complet, nécessairement. Le yoga implique l'être entier, en état d'union. Et l'Agni Yoga, c'est le yoga pour maintenant, pour cette race humaine maintenant qui devient une race mentale. Une race qui cherche à comprendre ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait. Donc la première partie, plein feu sur l'Agni Yoga, c'était pour moi un témoignage joyeux, rapide et synthétique. Bien sûr, je n'allais pas réécrire les livres des maîtres, c'était complètement idiot, mais pour justement montrer la direction, pour inviter avec toute la fougue qui peut être la mienne, pour inviter ceux qui pouvaient sentir la vibration de cet enseignement, pour les inviter à le pratiquer, à le vivre, parce que c'est une merveille, c'est incroyable, le champ qu'il ouvre dans la conscience et le pouvoir de transformation de l'Agni Yoga. Mais ensuite, quelques années plus tard, puisque je méditais profondément sur les lois du feu, j'avais compris que les lois du feu, telles qu'elles sont présentées par le maître tibétain, cette fois, d'une manière, à sa manière claire, ordonnée et précise, puisque j'avais compris que ces lois du feu, vivant, façonnent la conscience de l'homme, l'âme de l'homme, le corps de l'âme, le véhicule de la conscience, qu'elles sont à la base de sa conscience, du développement de sa conscience, j'avais médité donc chaque jour pendant plusieurs années sur ces lois du feu, telles qu'elles sont présentées dans le feu cosmique, oui, puis dans le traité sur les sept rayons. Je méditais à ma manière, parce que chacun bien sûr trouve sa manière de méditer sur les concepts, et je savais que cela me mènerait quelque part, puisque méditer sur un sujet nous conduit à entrer dans la vie du sujet, à l'intégrer. Et je me disais, en méditant sur ces lois, je vais les avoir en moi vivante et elles vont me façonner. Et pour plonger dans ce genre de choses, bien sûr qu'il faut faire abstraction de tout désir personnel, de tout intérêt personnel, parce que les lois du feu, elles sont les lois de l'esprit, elles sont les lois du royaume de Dieu. Et il n'y a pas de compromis possible. Ou on vit pour le royaume de Dieu, ou on vit pour la terre. Comme disait le Christ, on ne peut pas servir à la fois Dieu et Mammon. Donc, celui qui plonge dans l'Agni Yoga, il faut qu'il sache qu'il sera complètement dépouillé de tout ce qui est faux en lui. Mais c'est une joie, parce que, après tout, qu'est-ce qui est plus merveilleux à vivre que la réalité, la vérité? Le mensonge de la terre, ça fait toujours mal. C'est ce qu'on appelle la rétribution karmique dans le sens douloureux du terme. Mais nous pouvons découvrir la rétribution karmique dans le sens glorieux du terme. Et la rétribution karmique dans le sens glorieux du terme, c'est que l'on récolte ce que l'on sème, et que si je sème dans ma pensée les lois du feu, je récolte en moi le pouvoir des lois et je vis la loi. Donc j'avais compris qu'en méditant sur les lois du royaume de Dieu, que sont les lois du feu qui forgent la conscience de l'homme, j'allais toucher certaines réalités. Et la manière dont ça s'est présenté à moi, ces réalités, ça a été encore une fois des pensées et des paroles qui venaient de ce monde de la conscience du feu, de ce monde d'Agni, ce grand Deva Agni qui gouverne le plan mental, le plan de la conscience de l'homme, le plan de la conscience du Fils de Dieu. Et c'est pourquoi j'ai écrit aussi quelques pages sur ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là. C'était comme du feu qui me traversait et qui tombait en paroles. Je les ai écrites et je les ai appelées « Paroles d'Agni ». Et c'est la deuxième partie du livre « La voie du feu » et cela concerne d'une manière embryonnaire, bien sûr, mais comme une graine, cela concerne les lois du feu. Et à partir de là, bien sûr, cela peut avoir de grands développements, chacun peut développer à sa manière, parce que chaque expérience individuelle est différente de celle du voisin, bien qu'elles ont toutes le dénominateur commun, qui est le royaume de Dieu. Nous y revenons toujours. Ce livre donc, La Voix du Feu, je le considère simplement comme une graine qui peut aider celui qui se sent aspiré par le développement conscient de l'âme, le développement conscient du Fils de Dieu qu'il est, pour grandir en tant que Fils de Dieu d'une manière délibérée, consciente, volontaire, libre. Ce livre, en effet, peut être une graine de méditation. Et ceux qui l'ont expérimenté, quand je reçois certaines lettres, je suis très joyeuse parce que vraiment je me rends compte que certains ont vraiment compris ce qu'ils peuvent faire avec ce livre. Bien sûr qu'il ne fait pas de quartier au mensonge et que pour travailler dans la vérité, eh bien, il faut tout simplement avoir envie d'être dans la vérité. Alors à ce moment-là, ce n'est pas douloureux, ce n'est pas difficile, puisque c'est ce que l'on veut, c'est ce que l'on cherche, c'est ce que l'on aime. Mais ça implique que tout ce qui en nous est mensonge sera révélé, décelé dans la vie, dans les relations humaines, puisque c'est dans les relations humaines où l'on se frictionne aux autres, que l'on se rend compte de ces mauvaises postures, de ces mauvaises attitudes mentales ou affectives. En fait, c'est prendre le taureau par les cornes que de travailler dans la voie du feu. Prendre le taureau par les cornes pour se transformer soi-même d'abord. Et alors après, on a quelque peu en soi le pouvoir christique d'aider à la transformation des autres. Non pas de les transformer pour qu'ils nous plaisent, mais d'aider dans la mesure où ils demandent à les soulever quelque peu eux-mêmes aussi, à faire résonner en eux, dans la mesure où cela ne résonne pas encore assez fort, ce principe christique qui, ensuite, les aidera eux-mêmes à se développer eux-mêmes librement, comme chaque fils de Dieu doit se développer. Et cette deuxième partie de la voie du feu a donc été illustrée par Gilbert Le Capon, mon compagnon de route. Je lui avais demandé, depuis longtemps, de me faire quelques dessins ou quelques tableaux sur la voie du feu, sur les lois du feu, parce qu'il était beaucoup plus habile que moi avec ses doigts, et il pouvait certainement transmettre à sa façon ce qu'il voyait, qui pouvait correspondre d'une manière synthétique à ces lois du feu. Et curieusement, ça n'avait pas l'air de lui dire quelque chose, il n'avait pas tellement envie, et il ne le faisait pas, et il n'avait pas du tout d'écho pour illustrer les lois du feu telles qu'elles étaient énoncées dans le feu cosmique par le tibétain. Mais quand j'ai eu écrit ces quelques pages sur les lois du feu, que j'ai appelées les paroles dans le temple d'Annie, les paroles d'Annie, et qui étaient venues comme ça, comme du feu dans ma conscience, je disais en plaisantant que j'en avais les cheveux qui brûlaient, mais c'était presque vrai. Quand il a lu ces quelques pages, j'ai vu Gilbert prendre ses contreplaqués pour peindre. Et en quelques jours, il a jeté sur les contreplaqués, il a jeté des images qui lui venaient synthétiques, des images qu'il touchait dans sa conscience, il les a projetées et c'est comme ça qu'il a illustré le livre La Voix du Feu. Et c'était curieux parce que c'est pareil, il l'a fait sans prétention aucune artistique, il n'a pas fait les beaux-arts et certainement qu'un artiste confirmé verrait dans ses dessins beaucoup de défauts du point de vue technique, ça c'est certain. Mais ce qui compte, ce n'est pas tout à fait la forme que ces choses-là ont prise, ce qui compte c'est qu'une vibration est passée dans cette toile. Et il me disait lui-même, c'était curieux parce que je projetais ce que je voyais, comme je le sentais un petit peu, puis tout d'un coup il s'arrêtait, comme si à l'intérieur de lui quelqu'un ou quelque chose disait « maintenant ça suffit, laisse, n'y touche plus ». Il a peint ses illustrations exactement comme moi j'ai écrit les paroles d'Annie, d'un jet. Pourquoi ? Non plus pas par miracle ou pas, comme si on avait derrière nous ce que certains diraient sans doute, ceux qui veulent bien faire croire qu'ils sont de grands disciples initiés, ils diraient « le maître Moria était derrière moi et me tenait la main » ou « le maître Moria était derrière moi et me tenait la main pour écrire ». Non, le maître Moria a autre chose à faire. Mais le disciple, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand il médite, qu'il est bien entraîné à la méditation, qu'il est bien consacré aux valeurs du royaume de Dieu, il finit par émerger dans la conscience de l'ashram et il touche les réalités de l'ashram. Et le maître n'a pas besoin d'être en personne derrière lui ou de lui parler ou de lui parler ou de lui dicter à l'oreille. Non, le maître s'occupe des affaires mondiales. Il ne s'occupe pas des disciples en particulier. Il ne s'occupe pas de leur dire écris ceci, fais cela ou dis ceci ou dis cela. Non. Certains initiés peuvent venir communiquer chez certains psychiques évolués. Certains initiés de l'ashram peuvent être en relation télépathique, oui. Mais les maîtres ne s'occupent pas de cela parce que les maîtres travaillent uniquement dans les affaires mondiales, il faut bien le savoir. Seulement, c'est le disciple, lui, le disciple initié, qui parvient à entrer en résonance avec la conscience du maître et, comme je l'ai déjà dit, qui transmet une part de ce qu'il sait. C'est comme ça que fonctionnent les disciples transmetteurs de la sagesse de l'ashram, et non pas en étant particulièrement sélectionnés par le maître. Qu'est-ce que vous voulez que fasse le maître s'il commençait à s'occuper de chaque disciple qui a une petite prétention? Qu'est-ce qu'il ferait alors? Il ne s'occuperait plus des affaires du monde. Non, les maîtres s'occupent d'inspirer sur le plan mondial ceux qui œuvrent sur le plan mondial. Et Dieu sait si le monde a besoin de cette puissance énergétique, de l'attention des maîtres, le monde entier, et non pas les disciples individuels. Le maître tibétain le dit, le maître Moria le dit, mais évidemment, quand on veut tellement faire valoir sa petite personne, on occulte l'enseignement des maîtres et on raconte n'importe quoi. Alors bien sûr que ce livre La Voix du Feu invite l'aspirant sincère, amoureux de vérité, à travailler sans complaisance. Alors je comprends qu'il n'est pas forcément apprécié par le grand nombre, ça, c'est inévitable, parce qu'il y en a trop encore qui sont amoureux de fantasmagories et de choses qui peuvent flatter leur petite personne. Mais malgré tout, je suis enchantée de voir que de plus en plus le groupe de ceux qui veulent vraiment devenir de vrais disciples grandit tous les jours. Témoins en sont les multiples lettres que je reçois, que ce soit pour me parler de n'importe lequel de mes 4 livres, parce qu'il y en a beaucoup qui les entendent et les comprennent. Et comme je l'ai dit, je n'ai d'autres prétentions, d'autres buts que de témoigner de la richesse, de la profondeur, de la pratique de l'enseignement des maîtres. C'est tout. C'est à cela que ça sert. Mais au moins, ceux qui lisent les livres, ceux qui peuvent lire mes livres et qui ont eu quelques difficultés d'abord en abordant l'enseignement des maîtres, mais ceux qui lisent ce que j'écris, se trouvent beaucoup plus facilités ensuite pour travailler avec l'enseignement des maîtres. C'est à cela que ça sert.